phase de l'histoire de l'Église où celle-ci s'est montrée la plus dynamique, ça a été aussi des moments où elle a renoué avec les populations en grande précarité. On peut penser ici aux figures de saint François d'Assise, par exemple, ou de saint Vincent de Paul, ou plus proche de nous, quelqu'un comme sœur Emmanuel, l'abbé Pierre. Voilà, beaucoup de figures très inspirantes, finalement. Alors, si ce que je viens de dire est vrai, quel effet cela peut-il avoir sur la manière de concevoir la théologie? Peut-on imaginer que l'intelligence de la foi s'élabore sans ceux qui connaissent une forme ou l'autre de détresse? Alors, à cela, on pourra objecter qu'il ne faut quand même pas tout mélanger et que la rencontre et le chemin fait avec ces personnes en détresse, c'est une question qui concerne davantage la vie chrétienne, mais pas d'abord l'intelligence de la foi. Et on pourrait dire qu'on est dans le champ plus de l'éthique et non pas du théologal ou du théologique. Voilà. Est-ce que c'est si sûr que ça? Est-ce que pour entrer dans une relation juste à Dieu, est-ce qu'on n'est pas convoqué à prendre en compte les grands souffrants? Le pape François, dans Evangelii Gaudium, écrit, je le cite, « Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres ». C'est au paragraphe 197. Et il ajoute, au paragraphe suivant, « Ils ont beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. » Voilà. Alors, si ça c'est vrai, ça veut dire que le chemin fait avec les personnes en détresse ou en grande précarité, ce n'est pas seulement une question d'éthique, ce n'est pas seulement une question de comportement chrétien, mais c'est bien un lieu théologique, c'est-à-dire le lieu d'une rencontre avec Dieu, d'une expérience de Dieu, et du coup, ça sera important pour l'intelligence de la foi. Et si l'on admet ça, ne doit-on pas tenir que la théologie elle-même est invitée, du coup, à honorer, elle aussi, ce rendez-vous avec les personnes en détresse? De fait, si on élabore notre intelligence de la foi dans l'ignorance des pauvres et des petits, notre théologie ne permettra pas de les reconnaître comme des acteurs clés de la proclamation de l'Évangile, alors même qu'ils apparaissent comme ça dans le Nouveau Testament. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des questions assez sérieuses qui se posent. Notamment si on veut, en théologie, réfléchir en s'appuyant sur ce que disent des personnes en grande précarité, si on veut honorer ce qu'elles disent dans notre réflexion elle-même. Première question, alors ces questions-là, vous les avez sur le plan. Première question, toute simple, comment recueillir la parole des personnes en grande précarité? Parce que très souvent, celles et ceux qui sont marqués par la grande pauvreté n'ont pas de facilité à s'exprimer. Et d'ailleurs, dans les évangiles, ces personnes se manifestent souvent par des cris. On peut penser à la syrophénicienne, par exemple, où on nous dit que les disciples, ils en ont plein la tête des cris et qui disent à Jésus, fais la terre, parce que ça commence à nous prendre le chou. Enfin, ils disent pas ça comme ça, mais en gros, c'est ça. Voilà. Hein ? On peut penser à Bartimée. On peut penser aux 10 lépreux et bien sûr aux possédés, qui souvent arrivent en criant et en gesticulant. Il se manifeste aussi par des gestes. La femme hémorroïse qui vient tout doucement par derrière toucher un pan du vêtement de Jésus. On peut penser à la femme qui vient oindre les pieds de Jésus en plein repas. Ça, ce sont des gestes, mais ce ne sont pas des paroles. Et il y a aussi des personnes en difficulté qui sont tout à fait silencieuses. Par exemple, le paralytique qui est porté par 4 hommes et qui est descendu en ouvrant le toit de la maison où Jésus était en train de parler. Ou bien le paralytique de la piscine de Bethesda où on nous dit qu'il était là depuis 38 ans. Ou bien la femme prise en flagrant délit d'adultère dans l'évangile de Jean. On ne l'entend pas dire un seul mot. Voilà. De temps en temps, on voit des personnes en détresse s'enhardir et prendre la parole. Et par exemple, ici, on peut penser au parcours assez stupéfiant qu'effectue l'aveugle né qui a été guéri et que l'évangéliste Jean raconte au chapitre 9. Et on voit cet homme qui, peu à peu, prend de plus en plus d'assurance dans sa parole. Voilà. Mais En tout cas, une première question se présente, c'est comment faire tout simplement, si on veut entendre les personnes qui connaissent de grandes précarités ou de grandes détresses, comment faire pour leur permettre de s'exprimer. Voilà. Il y a une deuxième question qui vient aussitôt après celle-là, c'est que si on veut aider ces personnes à parler, est-ce qu'on ne va pas, en les aidant, les influencer ? Est-ce qu'on ne va pas leur faire passer nos messages à nous, nos images et notre vision de Dieu dans leur tête ? Et au bout du compte, quand on aura recueilli leurs propos, est-ce que ce qu'on aura recueilli, ça ne sera pas un écho sans doute un peu déformé de ce que nous, qui les accompagnons, leur avons mis dans la tête ? Voilà, auquel cas, finalement, on n'aura pas gagné grand-chose. Troisième difficulté, c'est que les personnes en grande précarité, quand elles parlent, ont des propos souvent étonnants et parfois déconcertants. Et puis, de notre côté, on n'est pas habitué à les entendre. Et souvent, quand on les entend, la première chose qui nous vient, c'est un doute. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai ? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Voilà. Des fois aussi, on peut remarquer de grosses contradictions à l'intérieur de ce qu'elle disait. Du coup, on dit, mais ça ne tient pas la route. Voilà. Voilà. Donc, ça va demander de notre part, si on veut prendre au sérieux ce que ces personnes disent, ça va demander tout un travail pour apprendre à les écouter et apprendre à comprendre ce qu'elles veulent dire. Voilà. Ça, ce sont des questions pratiques. Mais en plus de ces questions pratiques, il y a des objections plus fondamentales qui toucherait à la légitimité de l'écoute de ceux qui connaissent la grande pauvreté pour élaborer un discours théologique. Alors, ces objections, je crois que vous les avez aussi sur le plan. Une première chose, c'est qu'on pourrait dire, à travers la parole de Dieu et la manière dont elle a été reçue, commentée, interprétée au fil des siècles, est-ce que finalement, on n'a pas tout ce dont on a besoin pour accueillir la révélation ? Et pourquoi vouloir rajouter par-dessus ça une attention à des paroles de contemporains qui en plus sont déconcertants et parfois insaisissables ? Pourquoi s'embêter à faire tout ce travail ? Voilà. Est-ce que ça serait une façon de sacrifier une sorte de mode qui pense que pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui, on a besoin à tout prix de la mettre en rapport avec ce que des contemporains disent et vivent ? Voilà. Deuxième objection. Même si on admet que la révélation doit se reformuler tout au long de l'histoire en fonction des questions qui travaillent chaque génération, pourquoi devrait-on faire confiance aux propos de telle ou telle personne en particulier ? Qu'est-ce que représentent ces personnes en dehors de leur parcours singulier ? En quoi cela peut-il aider l'intelligence de la foi de tout le peuple de Dieu ? Deuxième objection, un peu de fond, contre la perspective contre cette manière de vouloir faire de la théologie en écoutant les personnes en grande précarité. Troisième objection, c'est que quand on écoute ces personnes, souvent ce qu'elles disent, c'est sur le registre du récit, ou bien de l'anecdote, ou bien de l'échange spontané. Comment on va pouvoir passer de ça à un discours théologique qui, lui, devra être argumenté, conceptuel, référé à toute une tradition de recherche, un peu comme le genre de discours que je suis en train de vous tenir là, vous voyez. Comment on va passer de paroles tout à fait improvisées à quelque chose de beaucoup plus construit ? Et finalement, la question principale, peut-être, c'est qu'est-ce que ces tentatives de faire une théologie à l'écoute des personnes en grande précarité, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter dans le champ de la théologie ? Est-ce que finalement, on va trouver des illustrations de choses qu'on connaît bien par ailleurs, et auquel cas l'intérêt est quand même limité, hein, c'est simplement illustré, ou bien est-ce qu'il y aurait des nouvelles lumières qui seraient apportées sur telle ou telle notion théologique importante, auquel cas ça serait quand même plus intéressant. Est-ce qu'on pourrait même y voir une manière un peu autre d'entrer en théologie et de faire de la théologie, d'élaborer une intelligence de la foi ? Voilà. Voilà un peu les grandes questions qu'on peut avoir à partir de cette préoccupation de départ qui consiste à se demander qu'est-ce qu'on gagne à essayer de faire une théologie qui passe par l'écoute des personnes en grande précarité. Voilà. Alors tout ça, ça nous fait beaucoup de questions. Et parmi elles, il faut distinguer entre des questions de théologie fondamentale. Pourquoi on aurait besoin d'écouter les personnes en grande précarité pour mieux accueillir aujourd'hui la révélation du Dieu de Jésus-Christ? Il faut distinguer ça de problèmes plus opérationnels, plus pratiques. Comment recueillir leurs paroles? Comment les écouter? Comment les comprendre? Voilà. Alors, je vous propose de commencer par les questions de théologie fondamentale. Et après, on verra les questions plus pratiques. Donc là, on entre dans la première partie que j'ai intitulée « À l'écoute des sentinelles de l'humanité ». La question, donc, pour entrer dans cette partie-là, c'est un peu toujours la même. Pourquoi avoir recours à la parole des personnes très pauvres en théologie? Et pour répondre à cette question, il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on pourrait appeler un présupposé épistémologique, c'est-à-dire une manière, une méthode pour faire de la théologie, une méthode pour mettre en œuvre son intelligence de la foi. Donc se mettre d'accord sur un tel présupposé épistémologique qui tient que la révélation ne peut pas être conçue comme un message intangible et inchangé qui passerait sans coup férir d'un siècle à l'autre ou d'un continent à l'autre. Voilà. Et à l'opposé de cette vision-là, vous avez une autre vision, une autre manière de comprendre la révélation chrétienne qui dit que la révélation chrétienne doit être sans cesse reformulée en fonction du terrain qui l'accueille, en fonction des questions que se posent ceux qui accueillent la révélation. Et ces questions ne sont pas les mêmes d'un siècle à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Et donc à chaque fois, on va être amené à reformuler notre manière de comprendre la foi chrétienne. Ici, on entre dans le petit A que j'ai intitulé, petit A de la première partie, que j'ai intitulé « L'intelligence de la foi doit à chaque génération être redite à frais nouveaux ». Question. Cette reformulation de la foi chrétienne, est-ce que c'est finalement une affaire d'habillage d'un message qui, lui, dans son noyau central, resterait inchangé? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une reformulation de fond en comble? Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre. Parce que la prise en compte d'un contexte ne peut pas se réduire à une affaire d'habillage. Ça ne peut pas se réduire à un arrangement cosmétique ou pédagogique, simplement. Ce sont à chaque fois des questions fondamentales qui doivent être reprises à frais nouveaux. Et du coup, le message va s'en trouver profondément reformulé. La bonne nouvelle, à chaque fois, elle prendra des tonalités différentes selon les contextes dans lesquels elle est entendue. Mais évidemment, en tenant compte de ce que ces nouveautés qui apparaissent ne constituent pas des ajouts à la révélation faite en Jésus-Christ, révélation qui a eu lieu une fois pour toutes et dans laquelle on peut dire « Dieu s'est entièrement livré à nous ». Autrement dit, en Christ, Dieu s'est entièrement révélé à nous et il n'y a pas d'ajout supplémentaire qui serait à ajouter à cela. Seulement, cette révélation du Christ doit à chaque génération être accueillie à nouveau frais, en fonction, encore une fois, des questions, des aspirations, des soucis qui vont marquer cette génération. Voilà. Et en ce sens, chaque génération déploiera la révélation en l'approchant de ce qui la travaille au plus profond d'elle-même. Et ce déploiement, c'est vrai, pourra apporter des lumières nouvelles sur ce qui nous a été donné une fois pour toutes en Christ. On peut dire là, pour expliquer un peu ce paradoxe, pourquoi à la fois c'est la même chose et en même temps, à chaque fois, c'est nouveau. Ben, pour expliquer ça, on pourrait dire c'est exactement la même chose que quand on connaît une personne. Finalement, cette personne-là, on la connaît, mais on la redécouvre à chaque fois de manière nouvelle. Eh bien, la révélation chrétienne, elle tient avant tout à une personne, le Christ, et cette personne-là, on devra à chaque fois la redécouvrir de manière nouvelle, en fonction de la génération à laquelle on appartient. Mais ça, ça vaut aussi personnellement. Chacun devra découvrir qui est le Christ pour lui ou pour elle. Voilà. En même temps, on devra dire que chaque élaboration théologique nouvelle, elle doit tenir compte aussi de ce qui a été déjà réfléchi avant elle ou bien à côté d'elle. et elle ne peut prétendre à elle seule réinventer entièrement la théologie chrétienne. Elle doit faire donc œuvre de mémoire. Et c'est là précisément un des rôles majeurs de la dogmatique, c'est d'être une mémoire de l'intelligence de la foi, de tous ceux qui ont réfléchi avant nous et qui sont parvenus à des formulations sur lesquelles ils ont réussi à s'entendre. Voilà. Alors, ce que je viens de rappeler, c'est ce qui, aujourd'hui, fait largement consensus parmi les théologiens. Et ce que je viens de vous décrire de manière très rapide, c'est ce qu'on appelle la théologie herméneutique. L'herméneutique, ça veut dire l'art de l'interprétation. Et la théologie herméneutique, elle dit que l'intelligence de la foi consiste à réinterpréter à chaque fois, à frais nouveaux, la révélation qui nous a été donnée de manière complète et définitive, une fois pour toutes, en Christ. Mais cette révélation, encore une fois, il faudra la réinterpréter, la redire avec nos mots à nous à chaque fois. Et les théologiens pourraient, à partir de là, assez facilement convenir que pour percevoir ce qui travaille nos contemporains, pour mieux entendre leurs questions, leurs aspirations, ça serait quand même bien de les écouter, ces contemporains. Et du coup, de faire l'exercice de recueillir leurs questions, leurs interrogations, etc., etc. Pour faire comme ce qu'on entend dans le premier paragraphe de Gaudium et Spes, c'est-à-dire d'entendre leur joie, leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir redire quelque chose de la foi chrétienne. Alors, ce genre de travail d'écoute, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, qui a maintenant 20 ans, où j'ai interrogé une trentaine de personnes en leur demandant de raconter leur itinéraire de croyant. Donc j'ai recueilli une trentaine de récits de vie, et c'est à partir de là que j'ai réfléchi. Voilà. Le fait de ne recueillir que quelques récits repose sur le présupposé que ce qui anime tel ou tel de nos contemporains, pris un peu au hasard, eh bien, il y a de fortes chances qu'on le retrouve même chez d'autres personnes, même si ça sera dit avec d'autres accents. Par exemple, dans ma thèse, j'ai vite repéré que dans pratiquement tous les récits que j'avais recueillis, parce que j'avais en fait une seule question à poser aux personnes que j'interrogeais, je leur demandais si vous aviez à raconter votre itinéraire de croyant, qu'est-ce que vous diriez ? Voilà. Et je me suis aperçu que dans les 33 récits que j'ai recueillis, il y avait un point commun très fort et très clair. Il y avait ce que j'ai appelé une intrigue du devenir sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en racontant leur itinéraire de croyant, les personnes racontaient comment elles en étaient devenues, comment elles étaient advenues à elles-mêmes, on pourrait dire. Comment elles étaient devenues sujets, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parole et d'action, capable de dire « je ». Voilà, c'est ça un sujet. Eh bien, à chaque fois, dans les récits que j'ai recueillis, il y avait une intrigue autour de ça. C'est-à-dire qu'il y avait du suspense. Les personnes, en racontant leur histoire, elles disaient « est-ce que je vais arriver à faire entendre ma voix, à apporter ma contribution singulière à ce monde-là ? Est-ce que je vais arriver à parler, moi, à dire « je » dans ce monde-là ? » Et ça venait en même temps que leur itinéraire de croyant. Voilà. Ça, c'était un trait commun que pratiquement tous les récits partageaient. Mais si j'avais posé la même question à des croyants du XVIe siècle ou du XIIe siècle ou du Ve siècle, il n'est pas sûr du tout qu'on a entendu la même intrigue du devenir sujet. C'est une question très très contemporaine, cette question de est-ce que je vais pouvoir, moi, avoir accès à la parole, pouvoir exprimer quelque chose de ce que je suis au plus profond de moi-même. Voilà. C'est une problématique très contemporaine, ça. Et vous voyez qu'à travers ce genre de problématique, eh bien, ça va nous amener à revisiter la révélation chrétienne et à voir du coup la bonne nouvelle comme étant aussi ce qui permet à chacun d'avoir accès à sa propre parole. Voilà. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas les problématiques d'un chrétien du Moyen-Âge, vous voyez. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, que la révélation chrétienne, elle doit être reformulée à chaque génération à frais nouveaux, ben vous en avez un exemple là, à partir d'un truc particulier comme ça. Alors, ça, c'était aussi pour répondre à l'objection selon laquelle pourquoi entendre seulement quelques personnes et qu'est-ce que ça va nous dire sur l'ensemble des croyants ? Alors, j'ai répondu en disant, ben, souvent, les quelques croyants qu'on interroge, en fait, ils portent des questions largement partagées autour d'eux. On pourrait dire aussi que dans la tradition de l'Église, dans sa tradition à la fois spirituelle et théologique, il y a depuis très longtemps une grande valeur qui est donnée au parcours singulier de certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est intéressé aux saints dans l'Église. Et à chaque fois, on a tenu que les parcours particuliers de telle et telle figure de sainteté avaient des choses à nous dire très intéressantes pour nous évangéliser aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on attache de l'importance aux figures de sainteté. C'est parce qu'ils ont quelque chose à nous partager et eux-mêmes reformulent quelque chose de la foi chrétienne en fonction de ce qu'ils ont traversé, eux. Voilà. Et pourtant, à chaque fois, c'était des êtres singuliers. Mais vous voyez qu'on peut passer facilement du singulier au pluriel dans la vie chrétienne. Et du coup, on peut dire la même chose aujourd'hui, s'intéresser à quelques croyants pour entendre leur récit, pour entendre ce qu'ils vivent, eh bien, c'est intéressant aussi, ça a de fortes chances d'être intéressant pour beaucoup d'autres, même si ce n'est pas des grandes figures de sainteté. Voilà. Alors maintenant, ça c'était pourquoi écouter nos contemporains ? Voilà. Mais deuxième question, on entre dans le petit B de mon plan, pourquoi privilégier les pauvres et en plus les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de difficultés d'expression ? Premier élément de réponse, on pourrait dire les personnes très pauvres perçoivent la même réalité que nous, mais à partir d'un autre angle de vue que nous. C'est ce que souligne Marie-Yvonne Caillot, qui est engagée à ATD Quart-Monde depuis une quarantaine d'années, lorsqu'elle cite Joseph Rzezinski. Vous avez la citation sur le plan. Donc ça, c'est Joseph Rzezinski qui parle. « Né dans la misère, j'ai appris à voir le monde par le bas. Quand on regarde par le bas, on voit autrement, autre chose que lorsqu'on est habitué à voir le monde par le haut, par la fenêtre de notre tour d'ivoire. » Pour expliciter ses propos, elle prend l'image d'un spectacle qui serait vu depuis la salle ou bien depuis le poste qu'occupe le machiniste. C'est bien le même événement théâtral ou même le même opéra ou je ne sais pas, qu'on voit, mais à partir d'un angle de vue vraiment différent. Et du coup, ça ne met pas du tout en relief les mêmes choses selon l'angle de vue à partir duquel on regarde. Et on peut dire que les personnes en grande précarité ont bien un angle de vue sur la réalité très différent d'une autre, tout simplement parce qu'ils ont une expérience de vie très différente de la nôtre. Alors, quand on regarde la réalité à partir de cet angle de vue spécifique, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit d'abord beaucoup de violence, à commencer par celle qui a été subie, avant même, souvent, qu'on ait pu y comprendre quelque chose. Et là, je vais vous citer ce que dit Patrick, membre d'une fraternité de la Pierre d'Angle, quand il décrit ce qui lui est arrivé. Il dit, vous l'avez sur le plan, hein, « Ma jeunesse a été très dure. Il y avait toujours quelque chose à manger, mais il y avait la présence d'alcool, de drogue, les pleurs intérieures. C'est le corps qui a pris les coups. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est l'enfant qui a pris. Ce n'est qu'à la fin, quand on grandit, qu'on comprend, mais c'est trop tard. » À noter que, pour Patrick, la grande pauvreté, vous voyez, ce n'est pas d'abord, comme on se l'imagine souvent, un manque de nourriture ou de biens de base nécessaires pour vivre. Non, sa manière à lui de dire la grande pauvreté, de dire ce qu'il a subi, elle tient à cette expression pudique, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, et qui indique sans doute avant tout la conscience diffuse d'une insécurité grave. Et il signale la présence d'alcool, de drogue. Entre parenthèses, le mot « présence », vous le voyez, est assez fort et fait penser à quelque chose qui s'impose, qui dicte sa loi et qu'on ne peut pas esquiver. Et puis Patrick a cette expression un peu étonnante. Il dit « c'est le corps qui a pris les coups » et il parle de pleurs intérieures, comme pour indiquer que ce qui lui est arrivé l'a touché en amont de la conscience qu'il pouvait en avoir, avant qu'il ait pu mettre des mots là-dessus, avant qu'il ait pu s'en protéger. Parce que mettre des mots sur ce qui nous arrive, ça nous permet aussi de mettre les choses un peu à distance. Vous voyez, là, il a pris les choses en pleine face, sans aucune possibilité de s'en protéger. Et du coup, il ne peut rien exprimer, rien ne peut sortir. Même les pleurs sont condamnés à rester des pleurs intérieurs. Voilà. Et quand il dit « c'est l'enfant qui a pris », on peut entendre que son enfance en était profondément abîmée. Et c'est vrai. Alors, que peut produire une telle expérience ? Il y a fort à parier qu'elle rende extrêmement lucide sur certaines composantes de nos rapports humains, alors qu'en même temps, elle laisse très démunie pour pouvoir les comprendre et les situer dans un champ plus vaste et pour pouvoir aussi en parler. Parmi ces éléments d'extrême lucidité vient d'abord la sensibilité à la violence, mais aussi aux rapports dissymétriques, ceux qui maintiennent dans la suggestion ou qui humilient. Et puis au contraire, il y aura une hypersensibilité aux relations vraies, celles qui sont sans arrière-pensée, celles qui n'ont d'autre pourquoi que parce que c'est toi. Voilà, les personnes en grande précarité ont un radar qui leur permet de détecter immédiatement des choses qui sont soit de l'ordre de la violence ou de l'humiliation, ou au contraire, qui donnent un espace pour pouvoir être soi, à côté des autres et avec les autres. Voilà. À partir de là, on pourrait dire que ces personnes en grande précarité nous mettent très vite en face des questions de vie et de mort, des questions de sens ou de chaos, de promesse ou de l'illusion. Leur rencontre opère pour nous un effet de tri. Il nous aide à aller à l'essentiel, à reconnaître ce qui est vraiment vivifiant dans ce qu'on vit. Voilà. Ça oblige à faire un retour à l'essentiel. Et à partir de ce trait-là, on peut déjà comprendre pourquoi ça a partie liée avec l'évangélisation. Parce que si la rencontre des personnes très pauvres ou en grande précarité nous remet face à l'essentiel, là où il est question de vie et de mort, les questions du sens ou du chaos, les questions de promesse ou d'illusion, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait affaire à aussi ce qui fait vraiment vivre, ce qui donne vraiment la vie. Et à cela sera probablement associé le don de Dieu. Donc vous voyez, c'est sans doute pour ça que ces personnes nous mettent sur la piste. Disons, c'est sans doute pour ça que quand on a rendez-vous avec Dieu, on a aussi rendez-vous avec ces personnes-là. À partir de tout ça, on pourrait parler des personnes en grande précarité comme des sentinelles. On est ici dans le petit C de la première partie. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui voit en premier ce qui se présente, que ce soit un danger ou au contraire quelque chose d'heureux ou de bénéfique. Et la sentinelle pourra signaler à tous les autres ce qu'elle a perçu, car ce qui lui arrive à elle va concerner aussitôt tous les autres et sera pour eux aussi d'une importance cruciale. Les personnes en grande précarité, du fait de leur histoire, ont été rendues extrêmement sensibles à tout ce qui entraîne soit vers la vie, soit vers la mort. Tout simplement parce qu'elles ont été, comme Patrick, aux prises très tôt, très jeunes et souvent dans leur petite enfance, avec des combats de ce type. Voilà. Gustavo Gutiérrez, un des théologiens latino-américains de l'école de la théologie de la libération, dit que les pauvres sont ceux qui meurent avant le temps normal de la mort. Je crois que, alors il l'entend au sens où ce sont des personnes qui ont une espérance de vie beaucoup plus courte que les autres. Je crois qu'on peut entendre aussi son expression au sens où ils ont une connaissance de ces combats radicaux où il est question de vie et de mort, bien avant l'heure où ces combats nous atteignent dans le cours normal de la vie. Et du coup, toute leur vie sera très marquée et souvent abîmée par cela. Alors, voilà, ça c'était simplement pour dire pourquoi c'est important d'entendre des contemporains pour élaborer une intelligence de la foi et pourquoi parmi ces contemporains, les plus pauvres ont une place tout à fait spéciale. Voilà. Maintenant, deux grandes questions qu'on pourrait ouvrir à partir de là. On pourrait dire c'est bien gentil tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on va découvrir en écoutant ces personnes en grande précarité? Quelle expérience de Dieu elles ont? Voilà. On pourrait dire une première chose, c'est que leur parole est souvent le fruit d'une histoire partagée. Ici, je vous cite une autre personne qui a connu la précarité et même la vie à la rue, qui raconte la dérive qu'il a connue. Et il conclut en disant « Plus personne ne vous appelle, et puis on reste ou on rentre dans l'anonymat. Quand on devient anonyme, eh bien, plus personne ne vous connaît. Puis après, on ne se connaît même plus soi-même. Et c'est ça qui est, et il y a trois points de suspension. » Voyez ici que le terme qu'il emploie signale une perte, une dissolution du soi. Alors, on est tout à l'opposé de ce que je signalais tout à l'heure comme du côté du devenir sujet. Là, au contraire, c'est la perte du sujet, hein, la dissolution du sujet, la dissolution du soi. Hein. Et quand il corrige « on reste dans l'anonymat » par « on rentre dans l'anonymat hein, », c'est comme s'il signalait que c'était un lieu fermé qui engloutissait l'être. Et puis, il renforce encore ce qu'il dit en disant « on devient anonyme ». Là, il insiste sur le fait que c'est un processus, c'est quelque chose qui advient dans le temps. Et le sujet n'a plus pour se désigner que ce mot qui désigne l'absence de tout nom, anonyme, comme si c'était devenu son nom. Dans la phrase suivante, de manière très claire, il établit un lien entre l'effacement aux yeux des autres et l'épuisement de sa propre identité. Il dit « plus personne ne vous connaît » et « on ne se connaît même plus soi-même ». Voilà. Et de fait, dans ce qu'il dit, les derniers mots s'exténuent dans des points de suspension et dans le silence, symbole de cette capacité et d'être soi qui s'étiole et s'épuise, y compris donc dans la matérialité de ce qu'il est en train de nous raconter là. Donc il y a quelque chose de tout à fait pathétique là-dedans. Une manière d'idéaliser la condition des personnes exposées à la grande pauvreté consisterait à imaginer qu'il y a une sorte de noyau intérieur au sujet qui, lui, resterait indemne de ses attaques. Or, la misère produit des effets beaucoup plus pernicieux qu'un simple dépouillement qui nous dégagerait du superflu. La misère s'en prend également à ce qui est nécessaire pour vivre et elle agresse l'être en son cœur. Elle paralyse la parole et les gestes. Elle amoindrit les capacités de prendre du recul par rapport à ce qui arrive. Elle rend furieux. C'est une expression de Joseph Rosinski, le fondateur d'ATD Carmonde. Elle fait perdre parfois jusqu'aux repères élémentaires exigés pour vivre en société. Voilà. Et il faut entendre sans doute dans toute sa force pathétique cette question posée par un homme du Carmonde à Dominique Paturle, qui est un des fondateurs du SAPEL, et fraternité en Carmonde, cet homme qui demande à Dominique Paturle, « Si Dieu est un Père qui nous aime, pourquoi nous laisse-t-il devenir malheureux et méchants ?» Il faut entendre à la fois le malheureux et le méchant aussi. Parce que la misère rend furieux, c'est vrai. Parfois, elle rend violent aussi. Et donc, elle conduit à faire des choses, parfois, dont les personnes elles-mêmes ont conscience que c'est grave. Voilà. D'où l'importance du rôle, d'où l'importance des personnes qui vont se faire des alliés ou des compagnons de celles et ceux qui sont ainsi prises, aux prises avec la misère. Ces personnes qui les accompagnent vont contribuer à ouvrir un espace où la parole de chacun va pouvoir être attendue et encouragée. Et cet accueil bienveillant, c'est ça qui va permettre peu à peu aux personnes en grande précarité de déployer leur propre parole. La confiance parfois mettra du temps pour s'élaborer et en tout cas elle est indispensable pour que ces personnes puissent risquer leurs propres paroles. Tout cela se vit dans la durée et l'écoute ici est vraiment très importante. Voilà. On peut dire que cette écoute a aussi un effet de validation. C'est-à-dire que ce que risquent ces personnes en grande précarité dans un échange, dans un groupe, a besoin d'être accueilli et reconnu comme étant digne d'intérêt pour que les personnes puissent aller plus loin dans le partage. Voilà. Alors, ça c'est pour expliquer, disons, pourquoi la prise de parole de ces personnes-là, ben, c'est tout un sport, on pourrait dire, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais revient la question, finalement, qu'est-ce qu'on gagne à travers ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur Dieu? Et comment ça peut avoir une pertinence pour une intelligence de la foi? Alors, quels principaux traits d'une expérience de Dieu pourrait-on reconnaître chez ces personnes? On entre ici dans le petit B de la deuxième partie. La première chose que j'ai envie de souligner, j'ai intitulé « Ils connaissent le Christ souffrant ». C'est vrai que la misère souvent brise les familles et elle laisse chacun de ses membres en lambeaux souvent. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui disent « c'est pas une vie ce que je vis » ou bien « moi je vis sans vivre » ou bien « je vis quand même ». C'est le signe d'une grande douleur qui fait que l'existence ressemble souvent plus à une survie qu'à une vie. C'est sans doute à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'écrit le pape François dans Evangelii Gaudium, où il écrit « Pour l'Église, l'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Dieu accorde aux personnes très pauvres sa première miséricorde. Cette option, enseignait Benoît XVI, est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Pour cette raison, là c'est le pape François qui reprend la parole, je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, le sensus fidei, en français, le sens de la foi, c'est-à-dire cette foi que nous partageons qui fait que le peuple de Dieu a des outils pour discerner la vérité et pour reconnaître le don de Dieu là où il advient. Voilà. Donc ce sens de la foi, on pourrait dire, c'est une capacité de discernement qu'a le peuple de Dieu. Donc ça, c'est commun à tous les croyants. Mais en plus de cela, les personnes très pauvres, je reprends le texte, par leur souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leur existence et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Voilà, donc les paroles du pape François qui dit l'importance très grande pour l'Église, pour l'évangélisation des personnes qui connaissent la très grande pauvreté. Notamment parce qu'il dit « ils connaissent le Christ souffrant ». Et ça, c'est très clair. Ça, je peux vous le confirmer. Quand on partage la parole de Dieu avec des personnes en grande précarité et qu'on lit ensemble les textes de la Passion, eh bien, les commentaires que font les personnes en grande précarité, c'est un peu comme s'ils étaient là au moment où tout ça s'est passé. C'est comme s'ils se voient comme vraiment des contemporains de Jésus en sa Passion. Voilà. Il y a une familiarité, une proximité très grande de ceux qui souvent ne comptent pas aux yeux des autres avec le Christ, et notamment le Christ en sa Passion. Et c'est sans doute ce qui fait que ces personnes peuvent représenter pour toute l'Église des guides qui peuvent nous aider à entrer dans la Pâque du Christ. Voilà, c'est un premier trait qu'on peut apprendre d'eux, c'est qu'ils peuvent nous apprendre à approcher le Christ souffrant. Voilà. Deuxième chose, je l'ai intitulé, c'est le petit C de la deuxième partie, « Une vie malgré les impossibles ». Quand on écoute de près ce que disent les personnes marquées par de grandes précarités, on est témoin non seulement de leur grande proximité avec l'homme des douleurs et l'homme humilié du Golgotha, mais aussi d'une force étonnante, accompagnée parfois d'un sentiment d'accomplissement, comme si ces personnes parlaient depuis le terme de leur existence, depuis la fin de leur histoire, depuis ce lieu où tout leur être repose en Dieu. Alors ce trait, il a été observé par François Audinet, qui enseigne la théologie au Centre Sèvres et qui a fait sa thèse à partir de la parole des personnes en grande précarité. C'était publié dans un livre qui s'appelle « Vivant grâce à Dieu ». Et c'était son mémoire de maîtrise. Et sa thèse, elle, s'appelle « Les premiers ressuscités ». Voilà. Sa thèse, c'est que les personnes qui vivent de très grande précarité sont sans cesse confrontées à des questions de vie et de mort sociale au moins, et elles trouvent des ressources pour vivre et traverser ces épreuves-là. Et on peut dire que là-dedans, certains d'entre elles font vraiment une expérience d'être relevées. Voilà. Et du coup, on peut en parler comme des expériences de résurrection. Voilà. Un autre théologien qui enseigne lui aussi au Centre Sèvres, qui a aussi fait sa thèse à partir de la parole des personnes en grande précarité, Frédéric-Marie Lemoté, lui souligne des différences de sensibilité entre les personnes qui connaissent la grande précarité et ceux et celles qui les accompagnent. Il donne un exemple. À un moment donné, dans un groupe qui comprend à la fois des personnes qui connaissent la misère et des personnes qui les accompagnent, ils vont commenter la nativité. Et dans le récit de la nativité de Luc, il y a cette petite phrase, je ne sais plus comment c'est tourné exactement, mais il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, et c'est pourquoi ils ont été dans une étable. Voilà. Les personnes qui accompagnent les personnes en grande précarité, spontanément, vont commenter en disant « Jésus a été victime de l'exclusion qui touche les personnes pauvres. Ben, » Joseph et Marie, c'était des étrangers en voyage, ils n'avaient rien du tout, ils étaient sans le sou, donc ils se sont trouvés exclus, ils se sont trouvés mis à part. Mais dans le groupe, une personne en grande précarité n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation. Et je le cite, ces paroles, « Jésus ne naît pas dans une mangeoire à cause de l'exclusion dont il a été victime, c'est la volonté de Dieu qu'il naisse dans ce lieu pauvre malgré sa grandeur. » Vous voyez, une sensibilité qui dit « Dieu voulait naître dans ces conditions-là, voulait que Jésus naisse dans ces conditions-là. » En élargissant sa perspective, et en s'appuyant aussi sur la réflexion de Jacques Ellul, Frédéric-Marie Lemoté repère, on pourrait dire, deux styles différents selon que ce sont les personnes qui accompagnent les personnes en grande précarité ou ceux qui connaissent elles-mêmes la misère. On pourrait dire, chez les premiers, il y a une sensibilité de type prophétique. Et chez les deuxièmes, ceux qui connaissent la grande précarité, un style qui serait plus proche du style apocalyptique. Entre ces deux sensibilités, il y a de grandes différences, notamment en ce qui concerne le rapport au temps. L'Apocalypse est dans l'urgence de la fin des délais. Et la grande question du croyant, c'est « Jusqu'à quand vas-tu nous laisser ainsi ?» C'est ça la grande question de ceux qui vivent le temps de l'Apocalypse. La prophétie, elle, se projette dans une histoire où on peut intervenir et on va pouvoir agir selon l'appel de Dieu. Ça, ce n'est pas du tout les soucis premiers de ceux qui sont dans le temps de l'Apocalypse. Et pour Frédéric-Marie Lemoté, les personnes très pauvres sont dans le temps de l'Apocalypse. Leur question, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je vais vivre ce que je suis en train de vivre ? Voilà. Quand est-ce que Dieu va intervenir ? C'est une sensibilité qui donne une très grande importance à l'intervention de Dieu qui doit renouveler toute chose d'un seul coup. Voilà, un Dieu qui est libre d'agir, qui n'est pas pris par les contraintes du monde, etc. Un Dieu libre. Voilà. Les personnes de sensibilité prophétique sont beaucoup plus soucieux du respect des logiques du monde, en disant, Dieu, quand il intervient, il n'intervient pas n'importe comment. Il ne va pas tout briser. Voilà. Il va intervenir en respectant notre liberté à nous. Voilà. D'un côté, un grand accent qui est mis sur la liberté de Dieu, et de l'autre côté, un accent très fort qui est mis sur la liberté des acteurs humains. Voilà. En tout cas, on peut dire que dans l'Église aujourd'hui, c'est plutôt la sensibilité prophétique qui est honorée. La sensibilité apocalyptique, on veut bien l'écouter, mais on se méfie quand même d'elle. Eh bien, ce que dit Frédéric-Marie Lemoté dans sa thèse, c'est que une église qui ferait fi complètement de cette sensibilité apocalyptique, est-ce qu'elle ne se prive pas d'une grande partie de la révélation chrétienne, finalement, de ce qui nous a été dit ? Les accents apocalyptiques, ça fait aussi partie de la Bible. Si on n'écoute pas les personnes très pauvres, est-ce qu'on risque de ne plus donner de poids du tout à ce type de parole ? Voilà. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous donner des exemples de ce qu'on découvre quand on prend au sérieux, quand on écoute les personnes en grande précarité. J'entre maintenant dans la troisième partie de mon intervention, que j'ai intitulée « Quelle pertinence pour la théologie aujourd'hui ?» Là, jusqu'à présent, j'ai essayé de dire pourquoi c'était important d'écouter nos contemporains pour faire de la théologie, pourquoi c'est important, parmi ces contemporains, d'avoir une attention toute spéciale aux plus pauvres. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur part en donnant seulement quelques exemples, hein ? Maintenant, je vous propose, dans cette troisième partie, est-ce que ça engagerait une manière différente de faire de la théologie ? Et en quoi elle s'en trouverait renouvelée ? Voilà. Alors là, on va aborder des questions peut-être et des choses un peu plus compliquées. S'il y a besoin de revenir là-dessus, si c'est trop compliqué, on pourra revenir là-dessus à partir de vos questions. Hein. La première question qu'on peut se poser, là je vais m'appuyer beaucoup sur Christophe Theobald. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle épistémée pour aujourd'hui ? Une épistémée, ça veut dire quelle manière de comprendre et de réfléchir possible pour aujourd'hui. Cette épistémée-là, qu'on partage tous, plus ou moins ici, on peut dire, on la doit par exemple à tout ce que nous ont appris les sciences, la manière scientifique de réfléchir, les sciences humaines, les sciences dures, etc. etc. Tous, on est pétris par des exigences intellectuelles qu'on a en commun. Donc, quelle épistémée pour aujourd'hui ? Selon Christophe Theobald, l'époque contemporaine se caractériserait dans l'épistémée qui est communément partagée par plusieurs traits. Le premier trait, c'est la conscience d'une non-transparence du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la conscience que personne ne peut prétendre rendre compte de la totalité de la réalité. On pouvait encore penser ça, peut-être encore au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il pouvait y avoir des savants qui pouvaient prétendre embrasser à peu près la totalité de ce qu'on pouvait connaître sur la réalité. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre ça. Chacun a bien conscience qu'il connaît un tout petit aspect de la réalité, mais c'est tout. Voilà. Deuxième chose, on a la conscience d'une pluralité radicale de nos sociétés, où cohabitent des visions du monde très différentes, parfois incompatibles. Il y a un pluralisme polyédrique des convictions ultimes qui vont entraîner aussi des manières de voir, de se rapporter à la réalité très différentes, pas forcément faciles à faire se rejoindre les unes avec les autres. Voilà. Troisième trait, la différenciation interne des sciences et des philosophies rend illusoire la prétention d'intégrer tous leurs apports au sein d'un discours unique. Donc il faut renoncer à un discours qui prétendrait rendre compte de toute la réalité. Voilà. Tout cela produit un climat, on pourrait dire, d'incertitude généralisée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans ce contexte-là, quel discours théologique peut s'élaborer ? Vous voyez ? Et Christophe Theobald passe en revue plusieurs figures possibles d'élaboration théologique dans ce contexte-là. Une première manière de réagir dans ce contexte consiste à se contenter d'une approche très fragmentaire. Je deviens spécialiste de tel auteur ou de telle ou telle question très pointue. Et je peux le travailler finalement dans une relative sécurité intellectuelle, car je mets en œuvre la plupart des éléments que la critique habituellement admise à l'université exige pour ce secteur de spécialité. Je suis donc peu attaquable dans mon secteur. Voilà. Ça me donne une certaine sérénité. Mais si l'on s'en tient à ce confort et si l'on refuse de mettre le nez en dehors de son champ dont on est devenu le spécialiste, il n'est pas sûr qu'on rende grand service à l'Église et aux chrétiens, qui, eux, ont besoin de savoir si le discours de la foi qu'ils entendent et qu'ils reprennent à leur compte tient la route ou pas. Voilà. Donc cette première figure de théologien, elle est possible, mais elle a ses limites. Voilà. Deuxième figure de théologie ou de théologien, elle consiste à dénier toute autorité à l'épistémée contemporaine, en considérant que ce qui importe, c'est de montrer la cohérence interne et la puissance du discours de la foi. Autrement dit, pourquoi nous embarrasser à vouloir faire un discours de la foi qui soit à peu près cohérent et qui puisse parler, répondre aux exigences de l'épistémée contemporaine ? Il suffit d'affirmer la foi telle qu'on l'a reçue. Voilà. Il y a des grands noms de la théologie qui sont un peu dans cette veine-là. Par exemple, un théologien comme Karl Barth ou bien comme Balthazar. Le risque que l'on prend, si l'on se contente d'une telle approche en théologie, ça serait de minimiser le besoin d'assentiment rationnel à la foi que la tradition catholique a tenu à honorer, ne serait-ce qu'en recommandant par exemple l'étude de la philosophie pour pouvoir faire de la théologie. Et cet assentiment rationnel ne peut être totalement séparé des manières de mettre en œuvre la raison qui sont promues dans la culture où le croyant évolue. Une troisième manière de réagir consisterait à vouloir tenir compte, au contraire, de l'épistémée contemporaine, et notamment de la critique de la rationalité moderne dans l'élaboration d'un discours de la foi. Et ça, ça va déboucher sur des théologies systématiques qui vont souscrire à l'exigence de se frotter aux exigences, toutes les exigences intellectuelles qu'on vient de signaler. Ça pourra aussi éventuellement amener à critiquer en retour l'épistémée contemporaine. Voilà. Mais tout ça, ça se fera au terme d'un très long parcours dans lequel on va essayer de redéployer l'ensemble de la foi chrétienne en la soumettant à la critique de l'épistémée contemporaine. Alors là, on peut penser aux grandes théologies systématiques de Paul Tillich, par exemple, de Pannenberg ou de plus proche de nous, de Joseph Moin. Alors ça, c'est une autre manière de réagir, hein, qui est très coûteuse parce que ça oblige à faire aussi tout un discours pour réarticuler l'ensemble de la foi chrétienne en tenant compte des exigences des épistémées contemporaines. Voilà. Quatrième réaction, qui est celle que préconisera Christophe Theobald, elle consiste à renoncer à articuler un discours systématique de la foi qui chercherait à tout redire en souscrivant aux exigences de l'épistémée contemporaine. Mais dans cette quatrième manière, on va chercher, alors là je vous cite Christophe Theobald, à se concentrer, je vous ai mis une citation complète mais je ne vais pas la lire en entier, on va chercher à se concentrer sur une structure fondamentale de l'expérience humaine, ouverte par la foi au mystère indicible de la grâce de Dieu, exprimée en sa forme la plus simple de formule brève. C'est un mouvement de réductio in mysterium, en lui prêtant en même temps accueil dans les situations humaines les plus concrètes. Ça, c'est le mouvement de concrétisation. Alors, vous voyez, le travail que fait ici le théologien, c'est de rechercher ce qu'il appelle les structures fondamentales de l'expérience humaine, pour voir comment là-dedans, il est question du don de Dieu. Comment, au sein même de ces expériences fondamentales, élémentaire et structurante pour l'être humain, on va pouvoir accueillir le don de Dieu. Voilà. Et du coup, à partir de là, la dogmatique, on va la voir comme une, je reviens à la citation, une forme de régulation, une grammaire générative de la tradition qui permet d'engendrer des figures historiquement et culturellement diversifiées et situées de la foi. Voilà. Donc la dogmatique, ici, c'est comme une grammaire générative, ce qui nous permet de parler, ce qui nous permet d'articuler des choses et de dire des choses aussi nouvelles parfois. Alors, pour élaborer cette manière-là de voir la théologie, il se réfère à Karl Rahner. Pour lui, c'est un exemple de théologien qui a cherché non pas à réarticuler dans un ensemble systématique toute donnée de la foi, mais à chercher plutôt à se concentrer sur des expériences centrales de l'humanité. Et à partir de là, à redire non pas tout, mais des choses qui sont pour nous, qui vont pouvoir avoir une force germinative, on pourrait dire, qui sont pour nous comme des lieux de naissance. Voilà. Alors pour Karl Rahner, par exemple, ça sera ce qu'il appelle l'expérience transcendantale. Bon, alors, je ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que c'est l'expérience transcendantale, etc., etc. Mais je reviens à la question qui est le fil rouge de l'intervention que je fais là, c'est: est-ce que les personnes en grande précarité pourraient nous aider à nous mettre sur le chemin du fondamental de l'expérience humaine dont parlait Christophe Theobald? Parce que la question qu'on peut poser à Christophe Theobald, c'est: qu'est-ce qui va nous aider à découvrir ce fondamental, hein? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous mettre sur le chemin et dire: ça, c'est vraiment une expérience fondamentale de l'humanité, hein? Voilà. Alors, je pense que Christophe répondra avec Rahner. Ce sont notamment les philosophes qui vont nous aider à nous mettre sur ce chemin-là. Alors, c'est vrai, sans doute, je crois. mais il y a sans doute un autre chemin possible aussi à partir des personnes qui connaissent la grande précarité. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que, eh bien, on peut dire qu'au contact de ces personnes en grande précarité, il va y avoir deux types d'expériences très différentes qui vont se rencontrer. Et dans cette rencontre-là, il va s'opérer comme un discernement qui va pouvoir mettre en relief ce qui constitue peut-être ce que nous avons en commun, nous qui relevons de mondes très différents. Et ce que nous avons en commun, eh bien, on va le retrouver autour des questions sur ce qui nous fait vraiment vivre, ce qui nous permet, ce qui nous donne vraiment la vie, ce qui permet d'échapper à la violence et au malheur notamment. Alors, je crois que le chemin fait avec les personnes en grande précarité permet de mettre à jour, de mettre en relief ce que nous partageons et qui est du côté de ce que Christophe Theobald appelle les grands fondamentaux de l'humanité. Je pense que c'est aussi un chemin possible pour aller vers ce lieu-là. Voilà. Alors, en introduction, je posais la question de ce que peut apporter en théologie l'écoute des personnes très pauvres. Est-ce que c'est des illustrations de choses déjà établies par ailleurs ? Est-ce que c'est une nouvelle lumière apportée sur telle ou telle notion ? Ou est-ce que ça serait une manière autre d'entrer en théologie ? Eh bien, je crois que c'est beaucoup plus qu'une illustration. C'est bien une nouvelle lumière. C'est bien une nouvelle lumière qui est apportée sur des grandes questions comme celle de l'espérance, de la croix, du salut, du pardon, de la figure même du Christ, de la mémoire, du rapport au temps, etc., etc. Il y a beaucoup de questions nouvelles qui peuvent être éclairées par ce que l'on reçoit de la personne, des personnes en grande précarité. Et au Centre Sèvres, on a animé depuis plus de 10 ans un séminaire qui travaille de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend une question et on essaye de voir comment l'écoute de personnes en grande précarité à travers la transcription de leurs paroles, comme on l'a fait un petit peu à telle ou telle occasion dans, ce soir, là, dans mon exposé, comment des choses prennent du relief. Voilà. Eh bien, en tout cas, on a travaillé par exemple sur la question de l'espérance et sur la question du salut, en voyant comment ces questions-là sont renouvelées. Et puis, il y a Laure Blanchon qui a fait sa thèse sur l'incarnation, comment la question de l'incarnation est renouvelée par l'écoute des personnes en grande précarité. Et je vous ai cité aussi la réflexion de François Dinet, qui a travaillé, lui, sur la résurrection. Comment la question de la résurrection est vue de manière nouvelle à partir de ce que des personnes en grande précarité disent. Et puis Frédéric-Marie Lemoté, c'est un peu une théologie fondamentale, c'est-à-dire comment l'accès à la révélation nous est donné autrement par l'écoute de ces personnes-là. Voilà. En terminant, je dirais, et à partir de ce que j'ai essayer de dire, à partir de l'approche de Christophe Theobald, je crois que les personnes en grande précarité ont aussi cette capacité de nous aider à discerner les lieux où, pour l'humanité, il y va de la vie et de la mort. Et en ce sens-là, ils nous mènent, disons, ils nous obligent à aller sur des lieux sources, voilà, qui vont, du coup, pour une théologie qui essaye de dire quelque chose de pertinent pour aujourd'hui, ils vont nous aider à retrouver ces lieux-là. Un de ces lieux sur lesquels ils nous ramènent très souvent, c'est un certain type de rapport humain qu'on pourrait caractériser par le terme d'alliance, qui est un grand thème biblique qui court du début à la fin de la Bible. Les personnes en grande précarité nous obligent à revenir toujours à un type de relation qui est celui de l'alliance, où le seul pourquoi de la relation, c'est parce que c'est toi. Voilà. Eh bien, à partir de là, on peut beaucoup réfléchir, à partir de la mise en relief, de la mise en valeur de ce type de relation, il y aurait toute une manière de réélaborer une intelligence de la foi, en donnant beaucoup d'importance à la dimension relationnelle, et pas n'importe quelle dimension relationnelle, mais cette dimension très marquée par cette coloration donnée par les thèmes de l'alliance biblique. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis maintenant, on a un temps pour échanger. Voilà. Il y a peut-être à la fois des questions d'éclaircissement, de revenir sur tel ou tel point un peu nébuleux.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, éclaircir un peu le thème de la relation et de l'alliance, et parce que c'est toi, illustrer ça peut-être par un exemple ou je ne sais quoi.
C'était le dernier point que j'avais mentionné. On pourrait dire que disons, pour être hyper schématique, on pourrait dire que dans nos relations, il y a des grands modes relationnels qui sont possibles. Il y en a un qui est avant tout sur le registre du calcul, dans lequel je m'engage, j'entre en relation, à condition d'avoir en retour quelque chose de proportionnel à ce que moi j'apporte. Voilà. On est là dans l'échange calculé. Et on peut dire que c'est une grande partie de nos échanges sont sur ce mode-là, ne serait-ce que le travail. Par exemple, il y a un contrat de travail, on doit fournir des prestations et en retour, on reçoit un salaire. Voilà. Et c'est normal, c'est tout à fait normal qu'une société s'organise en très grande partie sur le mode de l'échange calculé. Tout simplement, ça permet de prévoir ce que les acteurs vont faire. Si on n'était pas dans l'échange calculé et si on agissait en fonction de notre inspiration du moment, la société, ça sera un énorme chaos. Voilà. Donc, le calcul permet de réguler les choses, de revenir, de donner des repères, etc., etc. Seulement, si le calcul envahit totalement le champ de la relation, on risque de considérer qu'il n'y a rien en dehors du calcul, que tout est calcul, tout est intéressé, du coup, il n'y a rien qui soit un peu gratuit. Et la relation, parce que c'est toi, vous voyez, on sent bien tout de suite, rien qu'en disant ça, qu'on n'est pas dans une logique de l'échange calculé. Et quand on dit c'est parce que c'est toi, ce qu'on espère en retour, ce n'est pas une rétribution de ce que moi j'ai apporté, mais c'est d'avoir quelqu'un qui répond à l'appel que je lui adresse. Voilà. Eh bien, le Dieu de la Bible s'est révélé sur ce mode-là. Il s'est révélé sur le mode de l'alliance, parce que c'est toi, mon peuple. Et ça, ça a permis à un peuple de prendre consistance en réponse à cet appel de Dieu. Et c'est l'histoire extraordinaire de la Bible, hein, à travers plein de détours, de refus, d'aller-retour, etc., etc. N'empêche qu'au terme, il y a bien un peuple qui est né. Hein. Il s'est passé quelque chose, l'alliance a produit quelque chose. Eh bien, disons, on peut dire que les personnes en grande précarité sont hypersensibles à l'alliance. Ils ont un radar dans la tête qui leur permet de détecter tout de suite si c'est une relation intéressée, un échange calculé, ou si c'est une relation parce que c'est toi. Et on pourrait dire qu'elle ne supporte que la relation parce que c'est toi. Elle supporte très très difficilement autre chose que ça. Et quand on entre en relation avec elle sur un autre mode que le parce que c'est toi, eh bien elles s'en vont, tout simplement. Voilà. Et du coup, vous voyez pourquoi aussi ce sont des guides très précieux, parce qu'ils nous obligent à revenir à ce lieu-là, de l'alliance. Mais...
Tout au long de votre exposé, je me suis posé la question, qu'en est-il des béatitudes ? J'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, etc. J'étais malade, vous m'avez visité.
Alors ça, ce n'est pas tout à fait les béatitudes. Ça, c'est ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier. Hein. Mais effectivement, disons, c'est un texte très, très important qui dit que, finalement, la question du salut, parce que c'est de ça dont il est question, elle est liée, d'après cette parabole, non pas d'abord à des actes religieux qu'on pose, mais d'abord à la manière dont je me suis rapporté à celui qui avait faim, qui était nu, qui était en prison, qui était malade, etc. etc. Donc qui traversait une grande détresse. Ce qui est quand même énorme, ce qui nous est dit là. Hein. Disons, voilà. Alors, ce n'est pas le seul texte qui parle du salut, hein, mais disons, il est là quand même, ce texte-là. Il est là, ce texte-là. Et du coup, pour moi, ça souligne que, disons, les croyants, on a vraiment, en ce qui concerne notre relation à Dieu, on a vraiment un rendez-vous crucial avec ceux qui, autour de nous, traversent des choses très difficiles. Voilà. Alors maintenant, peut-être la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il en est des béatitudes qui disent, elles, heureux vous les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc. etc. Alors, moi, je pense qu'on peut l'entendre, les béatitudes, comme un appel à vivre quelque chose d'un dépouillement, voilà, de laisser tout le superflu de notre vie. Hein. Mais ce dépouillement-là, je crois que, là encore, ceux qui sont des excellents guides pour nous aider à vivre ce dépouillement-là, c'est justement ceux qui vivent de très grande précarité. Parce que ils nous obligent à laisser de côté tout un tas de choses non essentielles, quoi, disons. Voilà. Alors, on peut dire que les évangiles, c'est finalement peut-être l'histoire de la rencontre entre des gens comme vous et moi, qui ont le souci de chercher Dieu, et puis d'autres personnes qui sont hyper présentes dans les évangiles, qui sont souvent comme des étoiles filantes, qui ont des fulgurances dans leur foi. C'est de eux seuls que Jésus dit « ta foi t'a sauvé » ou bien qu'il est dans l'admiration par rapport à leur foi. Ce sont toutes les personnes, les suppliants, les personnes en grande précarité, les personnes en détresse. Et peut-être que l'évangile, c'est avant tout l'histoire de la rencontre entre les disciples, ceux qui suivent Jésus, qui avaient décidé de suivre Jésus, et ces personnes-là qui connaissaient de graves détresses. Et peut-être que l'Église, ben, c'est aussi le lieu de cette rencontre-là. Et les béatitudes, finalement, c'est le lieu où on se retrouve les uns les autres à travers cet appel à la joie et au bonheur et qui nous est donné aussi maintenant, dès maintenant, on peut dire. Voilà. Ouais.
Est-ce qu'il y a des saints qui ont été au contact avec les plus pauvres qui ont mis en lumière cette beauté profonde des pauvres, ou est-ce qu'on en parle dans l'Évangile et au XXe siècle ?
Alors, oui, moi je dirais que l'histoire de l'Église, elle est remplie de figures de sainteté qui ont vécu des choses extrêmement fortes avec les personnes très pauvres de leur temps.
Est-ce que c'était de l'ordre de « je te donne » ou est-ce qu'il y avait cette écoute et quelque part, est-ce qu'ils ont écrit là-dessus ? Est-ce qu'il y a des écrits dans l'Église de ce qui s'est passé en eux dans cet aller-retour entre le plus pauvre et...
Alors ici, par exemple, on pourrait... une référence très très importante dans l'histoire de l'Église, c'est saint François. Et parmi les textes qu'a laissé saint François, il y a son testament, qui est un texte pas très long, dans lequel il redit l'essentiel pour ses frères. Et ça commence par la rencontre avec les lépreux. Voilà. Et il dit comment la rencontre avec les lépreux a été vraiment l'élément déterminant déterminant pour un changement de vie radical. Voilà. Et du coup... Ben, on peut dire que ce changement de vie-là, il l'a reçu de la relation avec les lépreux. On peut dire ça. Je pense que chez saint François, c'est hyper clair, il me semble. Alors après, je sais pas, chez les pères de l'Église, vous avez énormément de choses aussi sur, disons, tout ce qui... les pauvres comme une icône du Christ. Ça, c'est un grand élément, c'est un élément de la grande tradition chrétienne, ça. Et ça s'appuie aussi sur ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, disons, il y a vraiment, disons, dans la tradition spirituelle de l'Église, il y a vraiment cette constante que le rendez-vous avec des personnes en grande précarité, c'est aussi un rendez-vous avec le Christ. Voilà. Et qu'il y a quelque chose de sa présence qui nous est donné là. Voilà, c'est pour dire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau comme ça tout de suite au XXe siècle, quoi. Ça a été redit, alors sous des formes différentes, mais c'est Saint Vincent de Paul qui dit « Les pauvres sont nos maîtres ». Voilà, c'est pas rien cette phrase-là quand même. Hein. « Les pauvres sont nos maîtres ». Voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais ouais.
Il y a juste un petit point qui m'a échappé. Alors, c'était dans la rubrique 3, petit a. Vous avez parlé, à propos de Christophe Théobald, de la conscience de la non-transparence du réel. Après, un truc qui m'a échappé. Voilà, j'aimerais bien que vous me redisiez. Après, vous parlez de différenciation et de pas de discours unique possible. Et puis, il y a encore un quatrième point. Voilà, si vous pouviez me redire le second point que je n'ai pas.
Je vais regarder dans mes notes. Ouais, le premier point, c'était la conscience d'une non-transparence du réel. Hein. Personne ne peut prétendre désigner le réel. Voilà. Et aussi parce qu'on... Ça, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a aussi une conscience aiguë des interdépendances et de la complexité des enchevêtrements. Voilà. Et du coup, si on prend un petit bout du réel, il y a tout le reste dont on doit tenir compte aussi. Donc, on dit, bah, on n'y arrivera jamais. Ouais. Donc, il y a une non-transparence du réel. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est le pluralisme radical de nos sociétés, où il y a des visions du monde très différentes qui coexistent et qui fait que, disons... On peut avoir un regard sur le monde à peu près cohérent et fort, disons, enfin, qui donne un sens au monde, mais d'autres personnes à côté de moi peuvent avoir une autre vision du monde aussi cohérente, mais on va avoir beaucoup de mal à faire coexister, à faire se rencontrer nos deux visions du monde. Voilà, c'était ça le deuxième point. Hein. Et le troisième point, c'était sur la différenciation interne des sciences et des philosophies qui rendent illusoire le fait de pouvoir, disons, embrasser toute la connaissance disponible. Voilà. Du coup, ça, c'est un petit peu les contraintes qui sont liées à l'épistémée contemporaine. On ne peut pas prétendre avoir une connaissance en faisant fi de ça. On est obligé de tenir compte de ça. À partir de là, quelle théologie on peut élaborer? Et c'est là que j'avais quatre modèles différents de théologie que... proposé. Voilà.
Oui. Question, comment est-ce qu'on peut rapprocher ou concilier cette affirmation, cette reconnaissance du caractère absolument central et essentiel de la pauvreté? En fait, c'est une expérience fondamentale avec, il me semble, l'appel qui nous est fait à tous qu'on doit travailler à la suppression de cette pauvreté et que dans l'Évangile, on voit quand même le Christ libérer énormément de gens et les faire sortir.
Oui, merci beaucoup pour votre question parce qu'il ne faudrait surtout pas que ce que je viens de vous dire soit perçu comme une sorte d'apologie de la pauvreté pour elle-même, comme si c'était finalement formidable, quoi, hein, qu'il y ait des personnes qui vivent des choses terribles. C'est quand même, s'ils ont... le petit extrait qu'on a entendu de Patrick, là, ça dit quand même en quelques phrases, mais la somme de souffrance que représente une vie comme ça, quoi. C'est vraiment des choses terribles, je crois. Il y a des personnes autour de nous qui vivent comme ça, des choses terribles. Hein. Voilà. Alors, moi, je dirais, ce qui est, disons, ces personnes-là nous appellent, nous invitent à les rejoindre, à faire route avec elles, à devenir leurs amis, tout simplement. Voilà. Et parce que ce dont elles souffrent souvent le plus, c'est d'être tout le temps considérées comme étant pas dignes d'intérêt. Voilà, pas fiables. Pas, disons, on ne peut pas faire affaire avec elles. Voilà. On peut rien, on va pour rien pouvoir engager et vivre avec elles. Alors, disons, avec les moyens qu'on a, chacun, et avec aussi le réseau de relations qui est le nôtre, je pense que ça demande d'être hyper attentif à ceux qui sont le plus en difficulté là-dedans pour aller à l'encontre du réflexe qui souvent vient en premier de mettre ces personnes à distance parce qu'on dit « Oh là là, je ne vais pas m'en sortir, je vais avoir une somme de soucis, de problèmes, etc. etc. » Donc, j'aime mieux garder les distances. Moyennant quoi, ces personnes, il n'y a personne. Ils vivent souvent des formes d'isolement très, très cruelles. Et ça, c'est humiliant. Parce que ça, le message aussi qu'on leur fait passer, c'est « Vous n'êtes pas digne de participer à la vie qu'on est en train de mener ensemble. » Voilà. Et ils en ont conscience de ça. Et c'est très, souvent, c'est très douloureux. Alors, disons, ce qui peut lutter contre cette forme de mise à l'écart, ben c'est d'aller vers ces personnes-là, d'essayer de renouer et voilà, d'essayer des choses pour renouer des relations, des liens avec ces personnes-là. Et là, même si c'est très modeste, on contribue, on se met en chemin pour lutter contre la misère, cette misère terrible qui est l'exclusion, le fait de plus être digne de participer aux échanges. Et évidemment que comme chrétien, l'appel qu'on a, c'est de combattre la misère. Disons, la grande pauvreté est destructrice et on ne peut pas l'accepter. C'est absolument, on ne peut pas se résigner à ce que on ne peut pas faire comme si elle était acceptable. Voilà. Alors, mais disons, je pense qu'en tout cas, c'est dans le chemin fait avec des personnes, ces personnes-là, que quelque chose du don de Dieu nous advient. Et ça n'est pas non plus uniquement en ce lieu-là. Il y a aussi, par exemple, l'expérience de la prière. Il y a aussi quelque chose du don de Dieu, l'expérience de la lecture de la Bible, quand on la partage, etc. Ce sont d'autres lieux dans lesquels le don de Dieu nous est rendu proche. Mais je pense que on a en tout cas tous rendez-vous avec les personnes en grande précarité qui sont autour de nous. Voilà.
Ma question va être extrêmement pratique et banale. Qu'est-ce que fait un bon chrétien lorsqu'il retrouve dans sa boîte de lettres des dizaines et des dizaines de lettres demandant de l'aide pour les pauvres?
Oui, oui, parce que très souvent, les personnes très pauvres s'adressent à nous sur le mode de la demande d'aide. C'est vrai. Alors là-dessus, quelqu'un comme Joseph Rezinski, le fondateur de ATD Quart Monde, qui lui-même, étant enfant, a connu la grande pauvreté, il va éveiller notre attention pour dire, peut-être des fois c'est important, l'aide d'urgence, c'est vrai, quand on est vraiment aux prises avec des choses très très graves et très très urgentes, mais le plus important, c'est pas ça quand même, le plus important, c'est de renouer une relation dans laquelle l'autre, il existe pour lui-même et qu'on s'intéresse à lui pour lui-même, voilà. Alors, je reconnais que ce n'est pas facile du tout, souvent, surtout avec des fois des personnes qui se sont habituées à tout le temps entrer en relation sur le mode de la demande d'aide, parce que finalement, d'une certaine manière, c'est le seul mode qui permet encore d'entrer en relation. Voilà. Les autres modes étant pas compris. Voilà. Alors du coup, c'est devenu un réflexe. Alors, parmi les récits que j'avais recueillis, il y a le récit d'une femme du Sapel qui raconte, elle a une amitié de 20 ans avec une personne en très très grande précarité. Elle raconte comment au début, d'abord elle a mis 3 ans pour que naisse vraiment quelque chose de l'ordre d'une amitié. Et elle raconte comment au début, à un moment donné, elle a dû dire j'arrête, je te préviens, je répondrai plus à tes demandes d'aide, d'urgence. Voilà. Ça a provoqué des orages terribles, etc., etc. Mais si elle a pu dire ça, c'est qu'elle avait pu lui signifier qu'elle tenait à elle vraiment en même temps. Voilà. Mais que du coup, en tout cas, ce qui est très beau dans ce récit, c'est qu'on voit comment il y a une vraie amitié extrêmement forte qui a pu naître entre ces femmes-là. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Et quand on veut cheminer avec des personnes vraiment en très grande précarité, la recommandation, c'est de le faire pas tout seul. Parce que on risque de tomber dans des gros pièges de, voilà, et du coup de se faire aider par des personnes qui ont cette expérience-là. Hein. Voilà. Mais on n'est pas obligé de vouloir viser la très très grande précarité. Autour de nous, dans notre famille, dans nos proches, dans nos voisins, dans les collègues de travail, il y a des personnes qui traversent des choses difficiles vraiment. Ben, je crois qu'on est vraiment invité à avoir une attention aiguisée à ces situations-là. Et puis, on pourrait dire de chercher de plus en plus les personnes qui connaissent les plus grandes précarités, les plus grandes pauvretés, d'aller de plus en plus vers ceux qui sont peut-être le plus difficiles à aborder.
J'ai fait des études de théologie et une question un petit peu toute bête que je voudrais vous poser. Au Centre Sèvres, est-ce que vous étudiez donc les personnes en grande précarité de pauvreté, mais des personnes qui sont dans le monde des athées? Parce que au Centre Sèvres, il y a beaucoup de religieux qui viennent, des personnes catholiques, mais dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup d'athées. Est-ce que vous faites un chemin parmi les professeurs, est-ce que vous faites un chemin d'évangélisation pour les personnes athées? Évangélisation de rue ou d'autres sortes d'évangélisation. Je crois que pour moi, la plus grande des pauvretés, c'est vraiment les personnes qui ne croient pas du tout en Dieu et qui rejettent Dieu. Pour moi, c'est la plus grande des pauvretés.
Alors, je peux dire, au Centre Sèvres, notre mission, c'est de former des futurs acteurs de l'Église. Du coup, c'est des personnes, quand ils arrivent au Centre Sèvres, en général, sont déjà évangélisées. Alors, il y a encore un travail qui reste à faire, parce qu'on est tous en chemin d'évangélisation, on peut dire. Mais on ne peut pas dire qu'au Centre Sèvres, sur le lieu même du Centre Sèvres, ce soit un lieu d'annonce de la bonne nouvelle pour des personnes qui ne connaîtraient pas Dieu, par exemple. En revanche, ce qu'on essaye vraiment de faire, je crois, c'est, disons, de donner des moyens pour que des chrétiens puissent rendre compte de leur foi à leurs contemporains, à ceux qu'ils côtoient. C'est exactement le travail que vous faites aussi ici au CIF, il me semble. Hein. C'est-à-dire que si vous travaillez l'intelligence de la foi, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'y voir plus clair pour vous, ce qui est quand même en soi pas rien du tout, hein, mais c'est aussi pour pouvoir, j'imagine, partager ça de façon plus facile avec ceux que vous côtoyez, qui des fois sont athées. Hein. Voilà ce que je dirais.
Oui, je crois que c'est ce semestre vous faites un séminaire à partir du livre de Guillaume Leblanc, de Solidarité des éprouvés, je crois que j'ai vu ça. Un travail bon, de philosophe, de sociologie, on essaie de rejoindre le pauvre dans son expérience, non pas de l'extérieur, mais à partir de son propre expérience, ce que vous décrivez. Question est plutôt dans quelle mesure on a vraiment besoin de faire ce travail-là, peut-être aussi à partir des sciences sociales, pas forcément directement à partir de l'Évangile, sans lequel il y a le risque d'instrumentaliser le pauvre au service de notre foi et non pas de rejoindre le pauvre dans son propre expérience de ce qu'il ou elle vit.
Alors effectivement, c'est une question très importante que vous posez là aussi. Alors d'abord, c'est vrai que dans le champ de la philosophie, ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des philosophes aujourd'hui, des contemporains comme Guillaume Leblanc, qui travaillent sur le phénomène de la grande pauvreté, hein, et qui ont toute une réflexion là-dessus, qui réfléchissent sur les relations sociales, les relations de travail, la vie en société, à partir du phénomène de ce qui arrive à certains qui ne trouvent pas leur place dans ce champ-là. Hein. Alors, disons, au Centre Sèvres, quand on travaille, disons, notre perspective, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part de ceux qu'on n'écoute jamais d'habitude, voilà. Hein. Alors, Comment faire après pour apprendre? Eh bien, en fait, nous, on se met en rapport avec des communautés, des fraternités, dans lesquelles il y a des personnes en grande précarité qui sont membres de ces fraternités-là, hein, et qui ont petit à petit, du coup, trouvé leur place et qui ont trouvé leur moyen d'expression aussi. Ça, c'est très important et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, à partir de ce qui a été recueilli là, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment ça vient retravailler notre intelligence de la foi? Comment ça vient remettre des choses en question, des fois? Comment ça vient éclairer autrement notre intelligence de la foi, hein? Alors, on pourrait dire, est-ce qu'il y a le risque d'instrumentaliser les pauvres là-dedans, hein? Eh bien, oui, peut-être. Alors, qu'est-ce qui nous aide à ne pas aller dans ce sens-là? D'abord, c'est que nous-mêmes, on se donne comme exigence de ne pas rester à distance de ces personnes, mais nous-mêmes d'être membres de fraternités comme ça. Voilà. Moi, je participe depuis 2013 à une fraternité avec des personnes du quart monde. Hein. Et voilà, j'y suis un membre comme un autre, et je peux dire que je reçois beaucoup aussi là-dedans. Et je fais aussi l'épreuve de mes propres, disons, de mes propres résistances, de mes propres difficultés à écouter, à me laisser travailler par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils disent, etc., etc. Voilà. Et puis, une deuxième chose qui nous aide à ne pas instrumentaliser, c'est que dans notre séminaire de recherche, où on va élaborer une théologie, une réflexion théologique, il y a des personnes qui cheminent depuis des dizaines d'années avec ces personnes en grande précarité et qui nous aident. Je pense qu'on a besoin d'interprètes aussi. On a besoin de personnes qui nous aident à comprendre. Voilà. Et qui, des fois, nous disent, désolé, mais vous partez un peu dans le décor, dans votre manière de raisonner. Voilà. Alors, c'est plus ça, nous, qui nous aide à respecter la parole des personnes, plutôt que le recours à des sciences sociales. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que ça veut pas dire du tout qu'on prétendrait remplacer les sciences sociales, mais je pense que c'est une autre manière, un autre abord, qui est complémentaire des sciences sociales. Mais on éprouve aussi le besoin de réfléchir à partir de gens comme Guillaume Leblanc, qui eux seront plus par la médiation des sciences sociales et de la réflexion philosophique. Et c'est aussi indispensable pour nous dans la manière de réfléchir. Voilà. Parce qu'eux, ils vont éveiller notre attention sur d'autres questions qu'on n'aurait pas forcément vues et des choses comme ça. Voilà. Bon, voilà en très très gros. Ouais. Je suis désolé.
Merci.
Merci, Père Grieux. Évidemment, ça nous fait quand même descendre d'une simple initiation à la théologie spéculative. Votre livre s'intitule « Le Dieu qui ne compte pas ». Alors, ceux qui s'attendent à avoir un traité de l'art et la manière de s'adresser à un monde que Dieu laisse indifférent, ce n'est pas ce genre de livre qu'il faut emprunter ni lire, puisque Dieu qui ne compte pas, ça ne veut pas dire Dieu qui ne compte pas à nos yeux, mais ça veut dire Dieu qui ne compte pas avec nous, ou qui ne négocie pas avec nous, qui ne traite pas avec nous, et c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire le type de relation auquel vous nous invitez. Voilà, donc se laisser affecter par autrui, etc. Bon, il y a un vrai boulot. Ce qui est intéressant dans votre manière de faire, c'est que le travail, avant d'être spéculatif, il est d'abord affectif. Il y a des résistances d'un ordre qu'on ne va pas lever en une conférence. Bon, c'est un vrai travail. Bon, enfin, merci beaucoup, bravo. C'est un méchant travail qui commence. Ça me rappelle les grands débats que nous avions à l'Institut catholique contre le sentiment que Nietzsche éprouve à l'égard de la pauvreté, qui est un sentiment de dégoût. Il dit et il reproche aux cathos, et vraiment j'en étais hyper heureux. Il disait mais les cathos c'est répugnant parce que les cathos éprouvent de la pitié. Et lui ça lui faisait horreur. Et moi quand j'ai lu Nietzsche je me disais mais si c'était vrai. si les cathos étaient répugnants parce qu'ils sont encore capables d'éprouver de la pitié. Parce que la pitié, c'est se laisser affecter par l'autre. C'est renoncer à la puissance et laisser l'autre exercer de la puissance sur moi. Donc voilà, je ne sais pas si ça rejoint. Mais moi, je n'ai aucune expérience de votre terrain, là, de la pauvreté comme matériau. Ça, c'est impressionnant. Enfin, bravo, merci. Merci à vous tous, hein, d'être venus. Et n'oubliez pas qu'il y a de quoi. Il y a d'abord des tracts à prendre, des petits dépliants sur le CIF. Alors allez-y, hein, consommez-en sans modération. Par contre, le reste, vous pouvez consommer, mais avec modération, parce que vous êtes très nombreux. Merci d'être venus.